C'est officiel. Après des mois d'attente, des semaines de spéculation et des jours de polémique, la France a enfin un nouveau gouvernement. Mais entre la dissolution de l'Assemblée nationale et la nomination du nouveau Premier ministre Michel Barnier, la majorité des grands médias ont largement relayé et soutenu la communication présidentielle. Comment en sommes-nous arrivés là et surtout, quelle est la responsabilité des médias ? Pour répondre à ces questions, trois journalistes d'Arrêt sur Image qui ont suivi cette séquence de près, Pauline Bock, Loris Guémard et Robin Andraka. Revenons un peu en arrière. Le 7 juillet 2024, le nouveau Front populaire arrive en tête des élections législatives anticipées avec une majorité relative. 16 jours plus tard, la coalition s'accorde pour présenter la candidature de Lucie Casté au poste de première ministre. Mais Emmanuel Macron choisit alors d'ignorer cette candidature et décrète une trêve olympique. Comment les médias ont-ils réagi et ont-ils respecté cette trêve ?
Je dirais qu'elle est assez parfaitement respectée par les médias qui eux-mêmes étaient occupés en termes de moyens par la couverture des Jeux Olympiques. Alors ils auraient pu choisir de les allouer différemment ces moyens, mais en l'occurrence, la plupart des grands médias ont décidé de couvrir les Jeux Olympiques à la hauteur à laquelle ils estimaient que cet événement devait être couvert, c'est-à-dire extrêmement massivement et avec beaucoup d'enthousiasme, faisant passer l'actualité politique au second plan, voire au troisième ou au quatrième. Donc après, tout ça tombait très bien. Il y avait les JO, Macron a décrété la trêve, les journalistes politiques sont en vacances. Le résultat, c'est que la trêve a effectivement été respectée. Il y a eu très peu de discours politiques et de questions de cet ordre-là dans les grands médias, en tout cas.
Mais plus généralement, dans le journalisme politique, il y a une question de la présidentialisation qui se pose, dans le sens où, quand le président parle, ce qu'on m'explique, c'est qu'on le croit, en fait, on est d'accord avec ce qu'il dit, et on va appliquer ce qu'il fait sans forcément se poser de questions, y compris dans le journalisme politique, dont le but est censé être de questionner les actes et les paroles politiques. Et qu'en fait, c'est pas ce qui se passe avec Macron, parce que il y a un espèce d'accompagnement de sa parole et de ses actes. Il y a vraiment cette idée que on parle pas trop du NFP qui est arrivé en tête, mais plutôt du fait qu'il y a pas vraiment de gagnant, qu'on sait pas comment ça va se passer, que aucun bloc n'a gagné. Et ça, en fait, c'est des mots qui viennent du président à la base. Une chose, par exemple, qu'on m'a dite, c'est que en 97, quand Jacques Chirac dissout l'Assemblée nationale.
J'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
En fait, tout de suite, on parle dans les médias de dissolution ratée. Et là, c'est pas du tout un élément de langage qui s'est imposé dans les médias, alors même que la dissolution, elle est ratée. Les macronistes ont perdu une centaine de sièges à l'Assemblée, c'était déjà une majorité relative, là, c'est plus du tout une majorité. Et pourtant, c'est pas du tout questionné par les médias. Et les rares articles politiques qui donc émaillent l'été, c'est des articles très présidentialisés sur la personnalité de Macron. Par exemple, dans Le Monde, il y a un article du 30 juillet où on apprend que Macron est à Brégançon et qu'il profite de la trêve politique, je cite, pour peaufiner son plan pour Matignon en prenant l'air de la mer et en laissant son regard filer sur l'horizon pour réfléchir seul à la fin de son quinquennat. Et c'est vraiment une personnification d'Emmanuel Macron et d'un homme seul face aux décisions qu'il prend. Il n'y a aucune remise en question de ses décisions.
Et Pauline, elle a raison et elle a prononcé plusieurs fois un mot qui est hyper important dans cette affaire, c'est le mot accompagnement. On avait, il y a quelques années, un journaliste américain qui était venu sur le plateau d'Arrêt sur Image pour questionner justement la façon dont les journalistes politiques français traitaient l'actualité politique en France et qui s'étonnait en fait et qui disait en gros les journalistes en France, les journalistes politiques, ils sont là pour accompagner les politiques, alors qu'aux États-Unis, leur rêve, c'est de faire démissionner le président. Et c'est vrai qu'en France, on n'est pas du tout dans cette posture-là, en fait. On est dans une posture d'accompagnement, on essaye de préserver les sources qu'on a, quand bien même elles rapportent environ zéro info. On a vraiment un truc de... on veut accompagner la narration qui nous est fournie par le pouvoir et pas du tout la brusquer, quoi.
Sur cette idée d'accompagnement, il y a un autre truc qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'Élysée se joue de ça, en fait. Il y a un moment où donc Macron se réveille à la fin des vacances et décide qu'il est temps de peut-être nommer quelqu'un à Matignon. Et là, commence à lancer dans la presse plein de noms. On nous parle de Bernard Cazeneuve, on nous parle de Xavier Bertrand, de Gérald Darmanin, de Valérie Pécresse, de Gabriel Attal. Déjà, il joue de cet accompagnement, puisqu'en fait, les médias sont comme des chiens à qui on lance une balle, quoi. Ils courent après et ils republient tout sans vraiment se poser de questions sur mais qu'est-ce qui se passe derrière, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer.
En fait, les journalistes, je pense, à chaque fois, espèrent que ce sera le bon nom. c'est pas impossible qu'à un moment, il y ait un nom qui marche, quoi. Et ils se disent, bon, bah, on m'a filé ce nom, je vais le donner. Et puis, si ça marche, tant mieux. Parce qu'il faut aussi penser que bah, si les journalistes arrivent ensuite à expliquer à leur chef que c'est eux qui ont révélé le nom du futur Premier ministre, bah, c'est pas mal, quoi.
On a appris, en fait, ensuite, que dès le départ, Alexis Kohler, qui est un des plus proches conseillers de l'Élysée, avait rencontré dès le mois de juillet Michel Barnier. Et c'est un nom qui était sorti très rapidement. Donc, cette idée de faire valser les médias d'un nom à l'autre pendant une semaine et demie, c'est un peu se moquer d'eux.
Et alors, comment les médias étrangers ont couvert cette séquence ? À quel point leur traitement était-il différent de celui des médias français ?
Alors, moi, il y a deux choses dont on m'a parlé. C'est d'abord un article du New York Times qui, dès le 23 août, donc une semaine avant que Macron dise non à la candidature de Lucie Castet et que tout le monde se réveille un peu en disant « bon, c'est quand même un déni de démocratie », le New York Times écrivait que la France était, je cite, « un pays coincé dans la crise » et jugeait Macron responsable de cet enlisement, ce qui vraiment n'existait pas à ce moment-là dans la presse française. Et donc, ce qu'on m'a dit, c'est que, en fait, ce genre d'article, il devrait être écrit en France et que, comparé à par exemple, un dirigeant comme Donald Trump, qui donc était président des États-Unis jusqu'en 2020, les grands journaux américains ont beaucoup plus remis en question ces décisions, notamment le New York Times, mais pas que, le Wall Street Journal ou le Washington Post, et ont beaucoup mieux, et c'est vraiment quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, rappeler les règles, c'est-à-dire l'ensemble de règles républicaines, la Constitution, la façon dont s'organise la vie en démocratie et les institutions politiques. Ils rappelaient beaucoup mieux ce qui était censé se passer et pourquoi Trump ne respectait pas ces règles. Et c'est pas fait avec Macron. La presse française ne prend jamais le recul nécessaire sur Macron pour le faire. Ou alors, c'est vraiment très rare. Par exemple, pour revenir sur Trump, Libération est un des rares à avoir un tout petit peu dézoomé en rappelant dans un édito du 27 août signé de Dov Alphon, donc le directeur de Libé, que Macron avait, le 6 janvier 2021, condamné l'attaque du Capitole par les partisans de Trump et qu'il avait exprimé à ce moment-là sa confiance et son soutien dans la force de la démocratie américaine. Et Libération écrit donc « Son communiqué de lundi soir, celui qui dit non à Lucie Castet, je précise, exprime exactement le contraire pour la démocratie française. » Mais c'est dit avec beaucoup de précautions et de façon plus directe, il n'y a que dans les médias indépendants que c'est clairement questionné, en fait.
D'ailleurs, à la fin de l'été, un épisode a été largement traité par les médias étrangers. On est le 8 septembre, c'est la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques au Stade de France et Emmanuel Macron est hué pendant de longues secondes.
Pour nous tous, pour nous Français.
Comment les médias français en ont-ils parlé ?
Il se trouve que selon les médias, la manière dont ces sifflets ont été rapportés a été très différente. La première manière, c'est celle de France Télévisions, c'est-à-dire qu'on avait des commentateurs et commentatrices qui étaient extrêmement bavards jusque-là. Vous savez comment sont les commentateurs et commentatrices lors de ce type de cérémonie. Ils racontent tout, n'importe quoi, et ils commentent absolument les moindres faits et gestes, jusqu'au plus petit, au plus anecdotique, au plus anodin. Et là, en fait, on a 30 secondes de silence total des présentateurs et présentatrices, pendant qu'on entend distinctement des applaudissements, mêlés au sifflet et à quelques huées. D'un côté, il y a les médias qui en ont parlé explicitement, voire qui ont même fait des articles, qui ont publié des articles pour choisir d'angler sur ce sujet-là, en y voyant notamment un témoin de l'impopularité d'Emmanuel Macron. Ils ne le disent souvent pas, mais en l'occurrence, en plus, une impopularité auprès d'un public qui n'est pas forcément le public qui lui soit le plus défavorable. Les gens qui ont assez d'argent pour se payer une place à la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques, voilà, c'est plutôt les électeurs d'Emmanuel Macron que l'inverse. Et en l'occurrence, parmi ces médias, on va trouver par exemple RMC, on va trouver 20 Minutes, de grands médias qui décident de se dire « bon là, il faut en parler ». Ensuite, on a une autre attitude qui est celle des médias, on va dire, de direct. Alors d'un côté, il y a les agences de presse qui publie des dépêches quasi immédiatement. On va trouver notamment Associated Press, la grande agence de presse états-unienne, qui choisit non pas de faire une dépêche sur le sujet, mais de l'inclure dans sa dépêche. C'est-à-dire, ça, en fait, ça leur fait la conclusion de la dépêche, l'air de dire, bon, ben voilà, hop, on est revenu à l'état antérieur, Macron se fait siffler par les Français, voilà, il est toujours aussi impopulaire, ça bouge pas. Du côté du Monde, ils ont fait une blague en disant, ah oui, dites donc, le président du comité paralympique n'est pas apprécié du public. Bon, ils ont immédiatement dit que ça a été une blague. Comme c'est le Monde, ça n'a pas été compris. Ils se sont fait insulter sur les réseaux sociaux, y compris par des responsables politiques de gauche. Et puis ensuite, il y a une troisième catégorie de médias qui, comme France Télévisions, ont jugé qu'il valait mieux ne rien dire. C'est le cas de L'Équipe, c'est le cas de RTL, c'est aussi le cas de l'AFP. Il y a aussi le cas d'un journal comme Ouest France qui, dans son direct, va jusqu'à dire « Ah super, il a arrêté de pleuvoir », mais n'en parle pas non plus. Et donc là, on commence à voir ce qui peut poser problème, c'est-à-dire est-ce que des médias peuvent juger que l'arrêt de la pluie, c'est une information, mais qu'un président qui se fait siffler par un stade, c'est pas une information ? Et en fait, de quoi ça témoigne à la fin ? Bah oui, moi, je suis assez d'accord avec les journaux qui voient un témoin de l'impopularité d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que les gens, au sens large... sont agacés à un point que l'Élysée, je pense, ne réalise toujours pas, et ce, depuis des années. Je veux dire, depuis même les Gilets jaunes, même avant. C'est-à-dire, y a eu... si je dois parler comme un journaliste politique, mes excuses, la relation entre les Français et Emmanuel Macron, mais elle est terminée. Ça fait très longtemps qu'elle est terminée. Emmanuel Macron, il ne représente plus que lui-même. Et à la limite, on vote pour lui pour ne pas voter pour l'extrême droite. Mais c'est vraiment la seule chose qui fait que les gens votent pour lui, et ce, depuis des années, depuis la deuxième présidentielle, en réalité.
Il y a peu de journalistes politiques qui parlent comme ça, quand même.
Et finalement, le 5 septembre, Macron nomme Michel Barnier Premier ministre. S'ensuit un défilé de noms dans les médias où chacun spécule sur la composition du nouveau gouvernement. Un feuilleton qui n'est pas sans rappeler celui de cet été.
Comme le disaient Robin et Pauline, on a des noms qui sont donnés par des proches des cercles du pouvoir. Et en fait, on se demande si les journalistes politiques, quand ils ont ces proches des cercles du pouvoir, ils tendent leur sébille, en fait, pour avoir des bribes d'informations dont ils pensent que ça permettra soit de faire vendre le journal, soit de se faire bien voir auprès du chef, soit dont ils pensent réellement que ce sont de vraies informations. Parce qu'il ne faut pas oublier que la formation de beaucoup de journalistes politiques, c'est Sciences Po. C'est des formations dans lesquelles on s'intéresse à la mécanique du pouvoir. C'est-à-dire que de leur point de vue, et quand on écoute les gens dans les cercles de pouvoir, ils vont vous dire « Ouais, mais Bidule, il a nommé machin parce qu'il est copain avec truc et qu'ils se sont rencontrés à un dîner avec un tel. » Ce qui, du point de vue de la grande politique et de ce qu'on veut pour ce pays, n'a que très peu d'intérêt en réalité, même si c'est une réalité exact, de la manière dont ça peut se dérouler, on va dire, dans son intrication fine sur le terrain. Et vu des journalistes politiques, c'est souvent ce qui prend le pas sur tout le reste. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus intéressés parce que Bidule a rencontré truc à un dîner, qu'ils sont copains avec machin, que de ce que ça veut dire pour les Français. Et donc, les journalistes politiques, plutôt que d'aller interroger leurs sources sur ces grandes questions, vont plutôt les interroger sur ces petites questions. Et il se trouve qu'en plus, leurs sources ont beaucoup plus de choses à dire sur les petites questions, parce que c'est aussi ce qui les agite. C'est-à-dire, vous, à la machine à café, au boulot, quand vous parlez des ragots de votre travail, vous vous demandez pas si la boîte, elle va faire tant de chiffres d'affaires, si le ministre de l'Éducation nationale, il va plutôt décider ça ou ça, si vous êtes enseignant. Bah non, vous parlez de vos collègues, de machin, de trucs qui a fait ça, ce qui est un travers humain normal. Le fait qu'on le retrouve dans les articles de journalistes politiques ou sur les plateaux de télé en permanence, par contre, ça pose des questions vis-à-vis du rôle du journalisme dans ce pays.
Enfin, une fois de plus, cette séquence, je trouve qu'elle montre à quel point, et c'est un peu terrifiant à voir quand on regarde toutes les chaînes là début septembre, à quel point les journalistes politiques sont très mal informés. Ça veut dire que c'est des journalistes qui sont censés déjeuner avec les politiques, qui sont, quand ils font leur duplex, ils sont devant Matignon et tout, mais en fait, ils ne savent rien du tout. Ça veut dire que là, on a des journalistes sur BFM, sur France Info, qui répètent d'ailleurs absolument tous la même chose. C'est-à-dire qu'ils ont reçu exactement tous le même texto de conseiller ministériel.
Peut-être sur le même groupe WhatsApp d'ailleurs.
Très probablement sur le même groupe WhatsApp.
On vous conseille d'aller lire un article d'Arrêt sur Image sur les groupes WhatsApp des journalistes politiques.
Et là, on a par exemple le journaliste de BFM et la journaliste de France Info qui sont tous les deux devant Matignon, voilà, à différents endroits, mais... Sur le même lieu et qui disent la même chose et vraiment quelque chose d'absolument insignifiant qu'ils ont répété pendant des heures en direct.
L'agenda officiel du Premier ministre ne contient qu'un seul rendez-vous aujourd'hui, une réception des représentants du groupe Lyot.
Un rendez-vous notable notamment aujourd'hui à 15h des représentants du groupe Lyot.
Et son entourage nous confirme qu'il échange beaucoup au téléphone, en physique, avec un certain nombre de personnalités politiques.
Michel Barnier va s'entretenir avec différentes personnalités politiques, mais on ne nous donne pas les détails de qui sont ces personnalités politiques.
Il a aussi des séances de travail qui sont prévues avec son équipe et il travaille toujours aussi, nous a-t-on dit ce matin, à la composition définitive de son cabinet.
Ce que l'on nous dit également, c'est qu'aujourd'hui, c'est une journée chargée, chargée de travail avec son équipe et de rencontres pour former prochainement le futur gouvernement Barnier.
C'est-à-dire qu'on a des gens qu'on envoie alors dans un arrondissement pas mal de Paris, hein, ça va pas être désagréable, mais devant Matignon pour dire quelque chose de très très élémentaire quand même, quoi. Donc ça dit à quel point ces gens-là qui sont pourtant en contact en fait avec des ministres, des ex-ministres, des parfois même des présidents, en fait sont quand même assez mal informés, quoi. En fait, on a assisté sur les chaînes d'info pour la composition du futur gouvernement à peu près au même cirque auquel on avait assisté au moment où des noms fuitaient dans la presse toutes les heures pour savoir qui serait le premier ministre, le futur premier ministre ou la future première ministre. Et donc on a des espèces de cluedo ou de quiz toute la journée sur la composition hypothétique du futur gouvernement de Michel Barnier, avec des petites croix rouges, des petits signes de validation vert, et finalement des journalistes qui disent des drôles de choses du genre quand on tend l'oreille, voilà les noms qu'on entend. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que pour le coup, on a regardé un petit peu, donc on a regardé les quatre chaînes principales d'info sur plusieurs jours, et par exemple, à un moment, CNews et LCI affichaient exactement les mêmes visages, et en plus il y en avait vraiment beaucoup, il y avait genre une douzaine de visages exactement dans le même ordre, ce qui veut dire qu'en gros on avait des conseillers ministériels qui chuchotaient exactement les mêmes noms aux journalistes de LCI et de CNews qui ensuite les diffusaient à l'antenne et permettaient à leurs invités de réagir et de donner leur avis sans aucune information toujours.
Sachant que ça croise un problème plus général du journalisme qui est celui des rubricards. En l'occurrence, ça se voit beaucoup plus concernant le journalisme politique parce que beaucoup plus de gens s'intéressent à la politique. Donc c'est quelque chose qui est en fait très vaste et donc c'est plus visible. Mais en fait, c'est un problème éternel de tous les rubricards, c'est-à-dire des journalistes qui s'occupent d'un domaine spécifique, qui vivent de ce domaine spécifique et qui donc considèrent, comme le disait si bien Robin, qu'ils doivent entretenir des sources et de bons rapports avec les sources qui ont le pouvoir dans ce domaine spécifique. Et en fait, moi, mon regret, finalement, c'est lors d'une séquence comme celle-ci, les directions des médias, de beaucoup de médias, et je parle en particulier de la grande presse qui a ces moyens-là, ne se disent pas « Non, mais là, en fait, il faut arrêter de confier 100% des papiers politiques aux services politiques. On a des très bons enquêteurs qui sont des électrons libres. Il y en a dans tous les journaux, des gens qui aiment bien enquêter, quel que soit le sujet. Je pense notamment, par exemple, au Monde, on va avoir les gens de M Le Mag. Il y a beaucoup de très bons enquêteurs ou des gens qui sont dans d'autres rubriques, qui sont à la rubrique société, mais qui ont envie, là, de solliciter quelques sources qu'ils avaient d'un temps passé ou que, voilà, qui ont une idée de traitement ou qui ont une idée d'angle pour s'extraire de ce truc du rubricard où, bah oui, forcément, tu taffes tout le temps sur ce sujet-là, tu as besoin de tes sources, donc tu vas pas aller agresser, tu vas pas appeler ta source, tu vas pas appeler un conseiller ministériel pour dire bon, mais là, quand est-ce que vous arrêtez vos conneries? Est-ce qu'on peut avoir des réponses sur ce qui se passe pour... Est-ce que vous avez honte de vous, par exemple? Moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que ces gens-là, ils ont honte? Mais ça, c'est une question qu'aucun rubricard ne posera jamais, parce qu'en fait, sa source, elle ne va pas lui parler pendant 3 mois, et donc il n'aura plus ses infos sur la course de petits chevaux, et son chef, qui est lui-même un rubricard, il ne sera pas content qu'il ait plus des infos sur la course de petits chevaux, et en fait, on ne s'en sort pas. Et pour moi, le seul moyen d'en sortir pour beaucoup de journaux, parce que je comprends l'idée de la rubrique, oui, on veut avoir, voilà, on veut savoir ce qui se passe dans les cercles internes du pouvoir, c'est important, on veut le savoir au quotidien, on veut pouvoir vendre des exemplaires avec ces récits-là, très bien, mais prenez vos enquêteurs, posez-leur des questions, faites un appel dans le journal et envoyez-les faire des papiers en one shot. Et si vous avez quelqu'un du service société qui n'en a rien à faire de s'embrouiller avec la moitié du gouvernement, et bah, qu'il aille s'embrouiller, qu'il fasse son papier. Et celui-là nous apprendra peut-être quelque chose de plus intéressant que les 14 papiers précédents du service politique. Pardon, je m'énerve.
Ce qui est ouf, c'est que la colère de Loris, elle est plutôt saine dans le sens où, par exemple, moi, je ne me souviens d'aucune info sortie d'une enquête de la part d'un journaliste ou d'une journaliste politique. Ça veut dire que, en fait, ça n'existe pas. Au mieux, ils ont une interview exclusive de François Hollande. C'est le max. Mais sinon, en fait, ils ne sortent pas d'infos. Enfin, c'est parce que et en fait, on comprend assez bien pourquoi. C'est-à-dire que sinon, ils flingueraient leurs sources en 10 minutes. Après, c'est terminé. Ça veut dire qu'après, plus personne ne leur parlerait. Et donc, du coup, bah, effectivement, les infos qui sortent sur le monde politique, elles ne proviennent presque jamais de journalistes politiques qui suivent ça au quotidien, quoi. Parce qu'en fait, leur rôle, c'est pas ce qu'on leur demande. On leur demande pas d'enquêter, on leur demande de suivre.
Vous venez d'écouter Des Rushs, le podcast de la rédaction d'Arrêt sur Image. Tous nos articles sont à retrouver en intégralité sur arrêtsurimage.net.